mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour aux auditeurs, bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis.
Nous allons aujourd'hui nous intéresser à deux discours, deux allocutions données par le général de Gaulle lors des événements de mai 68.
Quel est le rapport avec la théorie mimétique ?
Dans le premier des discours, celui du 24 mai, le général de Gaulle propose une analyse rationnelle de la situation et annonce un référendum. Ce discours n'a aucun impact et les troubles continuent. Dans le second, il abandonne le ton objectif et désigne un bouc émissaire. Les grèves et les occupations de locaux cessent. En moins d'une semaine, tout est revenu à la normale.
Tu veux dire que le général de Gaulle a mis consciemment en œuvre les mécanismes de René Girard avec la désignation d'un bouc émissaire et le retour au calme ?
Pas tout à fait. À la date des événements, René Girard n'a encore publié que son premier livre, « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Il a identifié le désir mimétique, le premier pilier de son anthropologie, mais il ne tient pas encore le deuxième, le bouc émissaire. C'est l'occasion de redire que Girard n'a pas inventé ces mécanismes, il n'a fait que souligner des phénomènes bien connus et leur a donné une signification d'ensemble. Revenons au général de Gaulle. Désigner un bouc émissaire est de longue date une manœuvre bien connue des politiciens et des personnes qui exercent des fonctions d'autorité. Comme l'a dit le juriste et philosophe Carl Schmitt, l'essence du politique est de désigner l'ennemi.
Le retour au calme, après le second discours, serait causé par la désignation d'un bouc émissaire ? C'est ce que tu penses ?
Je pense en tout cas que c'est une hypothèse tout à fait sérieuse.
Tu vas donc nous présenter tes arguments.
La première allocution, celle du 24 mai, est assez longue, près de 8 minutes. Nous allons simplement en écouter deux extraits.
Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qui le concerne directement. Il y a sans nul doute des structures à modifier. Autrement dit, il y a à réformer. Car dans l'immense transformation politique, économique, sociale que la France accomplit en notre temps, si beaucoup d'obstacles intérieurs et extérieurs ont déjà été franchis, d'autres s'opposent encore au progrès. De là des troubles profonds, avant tout dans la jeunesse, qui est soucieuse de son propre rôle et que l'avenir inquiète trop souvent. Reconstruire l'université en fonction non pas de ses habitudes séculaires, mais des besoins réels de l'évolution du pays et des débouchés effectifs de la jeunesse étudiante dans la société moderne, adapter notre économie non pas aux catégories diverses des intérêts particuliers, mais aux nécessités nationales et internationales.
Ces deux extraits montrent une analyse objective de la situation. Une analyse assez profonde. Le général de Gaulle y revient sur l'un des fondements de la démocratie, à savoir le désir de chacun d'être partie prenante des décisions qui le concernent. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société, et tout indique que cette mutation doit comporter une participation plus étendue de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qui le concerne directement. C'est une vision constante chez lui. Dès 1945, il passait une ordonnance créant les comités d'entreprise. Il développa plus tard l'idée de la participation, selon laquelle les salariés devraient être associés à la conduite et aux performances des entreprises. En filigrane, cette idée se retrouve dans ce discours. Même liée à un référendum, cette proposition n'eut cependant aucun impact sur l'opinion publique et l'agitation qui régnait dans le pays. Le lendemain de l'allocution, Georges Pompidou était sur la défensive pour entamer les négociations de Grenelle. 6 jours plus tard, le 30 mai donc, le général de Gaulle reprend la parole. Cette fois-ci, c'est à la radio, vers 16h, et non plus le soir à la télévision. Il ne s'agit pas d'un détail. De Gaulle cherche à renouer avec sa légende, c'est-à-dire l'appel du 18 juin. La veille, le 29 mai, il avait disparu pendant une journée. C'est la fameuse visite à Massue, à Baden-Baden. Tout cela nous indique que le général de Gaulle a décidé tout à fait consciemment de quitter le registre analytique de son discours du 24 pour aller vers le registre symbolique. Or, un tel registre ouvre la possibilité du recours au bouc émissaire et en effet, c'est ce qui va se produire. Écoutons maintenant cette allocution du 30 mai.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse, en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rancard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids, qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France!
Qui est donc le bouc émissaire?
C'est le Parti communiste. Il est puissant à l'époque et pèse près de 20% du corps électoral. Sans le nommer, mais de telle façon que tout le monde comprend, le général de Gaulle suggère que le Parti communiste a provoqué cette insurrection, qu'il l'aurait préparée de longue main avec l'objectif de prendre le pouvoir. Cette affirmation est parfaitement fausse. Les événements de mai ont commencé par une agitation estudiantine. Leurs leaders ont ensuite appelé les mouvements ouvriers à les rejoindre. Mais ceux-ci ne se sont jamais réellement associés aux étudiants. Ils ne sont rentrés dans le mouvement que 3 semaines après son début. En réalité, les mouvements ouvriers se méfiaient des étudiants. Ces enfants de la bourgeoisie, je cite Georges Ségui, le patron de la CGT, qui demain allait leur donner des ordres.
Incriminer le Parti communiste ne correspondait pas à la réalité. Et pourtant, les troubles ont presque immédiatement cessé.
C'est bien pour cela que l'on peut parler de bouc émissaire. Tout le pays était désemparé. après l'échec des négociations de Grenelle, dont le protocole fut rejeté par la base syndicale le 28 mai, le gouvernement semblait avoir brûlé toutes ses cartouches pour mettre fin aux événements. L'annonce d'un référendum était tombée à plat. De Gaulle agita alors la menace d'une prise de pouvoir par le Parti communiste, et manifestement, tout le monde avait envie d'y croire. Et la communauté nationale sortit de la crise en se réconciliant autour de cette menace, menace largement hypothétique. Le mécanisme fonctionna parfaitement. Les dirigeants communistes et syndicaux diront plus tard « Nous avons tout de suite compris que la partie était terminée ».
Le général de Gaulle est aujourd'hui une icône indiscutable. Ta lecture du deuxième discours n'en fait-elle pas un personnage quelque peu machiavélique?
Peut-être, s'il n'y avait pas le discours du 24 mai. Mais dans ce discours du 24 mai, le général de Gaulle n'appelait pas à la vindicte contre qui que ce soit. Il sollicitait bien au contraire l'intelligence et la réflexion de chacun. Et nul n'a voulu l'entendre. 6 jours plus tard, il change de registre, sans doute parce que les Français attendaient une parole qui leur permette une catharsis. Le général leur fournit alors un bouc émissaire. Le résultat montre sa profonde intelligence de la psychologie collective. Charles de Gaulle connaissait d'avance l'une des leçons de René Girard. Si le mécanisme du bouc émissaire requiert quelqu'un qui le désigne, il faut aussi une communauté qui en attende un, qui en réclame un.
Ce sera donc le dernier mot de cette émission.
Il nous reste à remercier les auditeurs de leur fidélité. Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis. Au revoir à tous.